Aujourd'hui, en Daniel, nous sommes arrivés au chapitre 6. Et c'est cette histoire très connue. C'est Daniel dans la fosse aux lions. Quand on voit une telle histoire, tellement connue, une histoire qu'on pense que c'est plutôt pour les enfants et tout, ça me fait penser justement à ces films d'essais comiques, hein, comme... Superman, Batman, ces choses-là qui, bien sûr, sont des histoires pour les enfants que de nos jours sont refaits pour les adultes, les grands-enfants. Et ça donne des visions un peu plus différentes, un peu plus approfondies dans les caractères, les personnages avec qui on a grandi. Mais quand nous revenons pour revoir les histoires qu'on pense connaître, des histoires qu'on a malheureusement dit que ce sont des histoires pour les enfants, en les revoyant, nous réalisons qu'en réalité, ce ne sont pas des histoires enfantines, mais ce sont des histoires très importantes, très actuelles. Et il faut dire aussi, ça percute aussi notre orgueil, ça nous touche et ça nous change. Avant même de commencer... cette histoire, il y a des détails historiques qui sont tellement importants. Il y a un enjeu prophétique dans cette histoire que parfois on ignore. Dieu, il a promis que le temps de la déportation en Babylone serait de 70 ans. Et ça va terminer... donc avec un certain roi perse qui s'appelle Cyrus, que nous avons vu dans l'étude de mercredi soir, que Dieu a appelé avant sa naissance, en l'appelant même par son nom. Et cet homme est celui que Dieu a choisi pour laisser partir son peuple. Et c'est cet homme, Cyrus, qui vient maintenant à accéder au pouvoir. Voyez que dans les coulisses, Dieu, il agit. Et il laisse même un homme tel que Daniel, un homme qui est âgé de plus de 80 ans, un homme de foi, un homme de l'écriture, un homme de prière. Il laisse entrer encore dans la cour des grands, si vous voulez, dans la cour du roi, pour qu'il soit là quand il y a ces décisions qui sont faites. L'histoire nous enseigne que c'est Daniel qu'il parle éventuellement à Cyrus, des prophéties à son égard. Et est-ce que donc on s'étonnerait si Daniel n'était pas même utilisé pour rédiger le document de la libération du peuple d'Israël que nous trouvons en Esdras? Mais pourquoi est-ce que Dieu aurait-il fait tout ça? Parce qu'il utilise souvent des gens comme vous et moi, mais des gens bien placés. Peut-être ils ne sont pas dans la première place, là où tout le monde voit, mais ils sont placés, bien placés, pour accomplir sa volonté. Alors cette histoire rassure les Israélites que Dieu allait accomplir tout cela. Il va accomplir tout ce qu'il a dit et qu'il n'abandonnera jamais son peuple. Jamais. Et là, il y a au moins une belle leçon pour nous. Alors commençons. Tout d'abord, il organise ses sages et ses hauts fonctionnaires. Et puis, il y a ce complot par ses hommes jaloux. Ensuite, il y a cette constance de Daniel qui fait remarquer sa grande foi. Ça, on le compare avec la faiblesse d'un roi qui ne peut rien contre sa propre loi. Et tout ça mène éventuellement à la conversion de Darius. Alors regardons justement cette nouvelle organisation de ce royaume. Versets 1 à 3 de Daniel 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que les satrapes leur rendre compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, qui est Darius? Ça, c'est la première chose parce que jusqu'à maintenant, dans les annales historiques, on a vraiment du mal à le retrouver en dehors de la Bible avec ce nom, Darius. C'est pourquoi certains pensent qu'il s'agit de Cyrus lui-même, un autre nom, parce que, en fait, Darius, ça peut se traduire dans un titre tout simplement honorifique. Alors, c'est pour ça, quand on voit ça et tout ce qu'il fait, surtout à la fin, que peut-être c'est tout simplement Cyrus, donc c'est un nom qui donne honneur au roi. Ou bien, on pense aussi que ça pourrait être le général qui a mené les combats contre Babylone, que nous savons à l'histoire, grâce à l'histoire, que c'est lui qui a été établi comme gouverneur. Ou bien, une troisième possibilité, c'est que c'est Cambyse, le fils de Cyrus. Alors, entre ces trois, il y a certainement la vérité. Le seul problème avec Cyrus, c'est que tout ça se passe à Babylone. Et bien, Babylone n'est pas la plus grande ville, ni la capitale du royaume des Perses et des Mèdes. Mais c'est quand même importante. Ça se passe pendant une période spécifique, alors c'est toujours possible que ça soit Cyrus. Je crois que ça soit lui ou peut-être son fils. Qui sait, Dieu le sait, on le saura. Un jour, mais c'est pas pour aujourd'hui. Mais après cette défaite, Darius, qu'on appelle le roi, il organise son royaume. Et c'est normal qu'il prend Daniel à cause de l'histoire de chapitre 5 que nous avons lu donc mercredi. Parce que Daniel n'était pas avec les Babyloniens et encore plus, il prophétisait la fin de leur royaume, il était plutôt du côté de la justice et de Dieu. Et si on voulait qu'il y ait quelqu'un qui gouverne bien dans le pays, quelqu'un reconnu par le peuple, bien sûr, on veut que ça soit plutôt quelqu'un de désintéressé, comme ça, quelqu'un qui est plus intéressé à faire la justice que remplir ses poches. Et là, on a notre homme. Mais il est récompensé par le roi et il est réparé parce qu'il a un autre esprit. Ça, c'est intéressant. Réparé et récompensé à cause de cet esprit en lui. Et l'Esprit Saint ne nous aide pas seulement à faire le bien. Et il y a une autre erreur qu'on adopte parfois dans notre mentalité, c'est penser que le Saint-Esprit est seulement là pour que les dons de l'Esprit soient manifestés dans l'Église. Il n'y a rien de plus erroné que ça. Hein? Non, le Saint-Esprit nous aide dans tous les domaines de la vie à vivre d'une façon sainte, bien sûr, en dehors de l'Église. Donc, c'est bien que nous cherchons à être remplis de ce Saint-Esprit en toutes circonstances. C'est pourquoi c'est toujours une très bonne idée d'inviter le Saint-Esprit à travailler en nous chaque jour de notre vie. Et surtout, pendant que nous sommes au travail, pour que nous soyons des meilleurs employés à la gloire de Dieu. De même, Daniel, il risque d'être haut placé dans sa vieillesse. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quelle belle leçon! Et puis, malgré tout ça, il y a ce complot par ces hommes très jaloux. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis éternellement !» Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Pourtant, que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelqu'un, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon les Mèdes, la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi écrivit le décret et la défense. Alors, pourquoi ne peuvent-ils pas trouver une raison pour l'accuser? Parce que il est dit là dans notre passage, il n'y avait rien sur lui. Et ça dit beaucoup. Il n'y avait rien. Ils ont beau chercher. Mais la seule chose qu'ils pouvaient trouver, c'est dans sa vie de prière. Mais on se demande, mais pourquoi il y a tellement de haine contre cet homme Daniel? Il semble que sa vie spirituelle n'est pas le problème, mais c'est plutôt le prétexte qu'ils ont choisi. Avec le changement de pouvoir, c'est le moment où les hommes ambitieux se battent toujours pour des positions les plus importantes dans n'importe quel règne. Cette fois-ci, c'est la même chose. Mais dans le plan spirituel, c'est assez grave, hein? Puisque leur monde n'est pas forcément favorable à un retour des exilés à Jérusalem. Si vous lisez le livre d'Esdras, Néhémie et Esther, vous rendez compte que dans les autres niveaux du royaume, dans les sentiments des gens ordinaires, les gens n'étaient pas forcément contents de voir Israël regagner leur terre. Mais il y avait, justement comme nous venons de dire, une prophétie dite à cet égard. Et puisqu'il y avait une prophétie dite à cet égard, nous voyons que bien qu'il y a des rois et des hommes qui sont impliqués dans cette histoire, oh, il y a tout un autre niveau d'agitation. Un niveau un peu supérieur à celui des hommes. C'est dans le monde spirituel. Comme il est dit en Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Et si c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai à cette époque aussi, et on se rappelle de ces choses. Donc il y avait tous des agissements spirituel autour de cette histoire. Et avec ceci en tête, n'est-ce pas intéressant qu'il trouve un sujet de condamnation dans sa vie de prière qui était en réalité tout un mensonge qu'ils ont créé en disant « Oui, nous sommes tous d'accord, ô roi, pour que personne n'invoque personne d'autre sauf toi. » Mais attends, Daniel était parmi les plus importants. Et est-ce qu'il était aussi d'accord? Non, c'était un mensonge. Et ils sont venus tumultueusement aussi, en créant beaucoup de bruit. Ça donne une impression qui est tout à fait fausse. Faisons attention au grand bruit. Alors, ça rappelle un petit peu quelque chose d'autre, non? Ça fait rappeler peut-être la croix de Christ. Parce que Jésus aussi fut faussement accusé. Jésus, qui était aussi encore plus innocent, et pour pouvoir le condamner, qu'est-ce qu'on a dit de lui? On l'a demandé s'il n'était pas le Messie. Il a avoué et on l'a chargé d'un blasphème. n'a pas blasphémé, il a simplement dit la vérité là-dessus. Les mensonges et les fausses accusations sont ainsi l'héritage de ceux qui vivent par la foi. Daniel devient donc une préfiguration de ce qui se passerait avec Christ en cette affaire. Mais la constance de cet homme, tout à fait extraordinaire, regardez verset 10 s'il vous plaît. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait, invoquait son Dieu. Puis, ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. » Ils prièrent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. » Et il fait sa prière trois fois par jour. Oh, quelle accusation! On aime bien l'exemple de cet homme que Dieu a forgé pendant des années et des années. Lui qui est à la fin de sa vie, un homme forgé par la foi et la communion avec le Seigneur depuis des décennies. Il ne crée pas de scandale, il ne fait pas grève non plus. Qu'est-ce qu'il fait dès qu'il entend qu'il y a ce décret, cette défense? Il rentre chez lui et il prie. Mais il prie selon ses habitudes. Il ne fait rien de spécial, hein? C'est pas comme il poste une journée de congé, non, non. Il rentre chez lui, à l'heure normale, je pense, trois fois par jour, comme toujours. Et ça correspond avec les trois sacrifices au temple. Voyez, son cœur était toujours porté vers le temple. Et ça aussi, c'est une image de Christ, parce que Salomon a déjà prié que ceux qui sont éloignés puissent prier vers ce temple où ils peuvent recevoir le pardon. C'est ça qui nous fait penser à Christ. Parce que le temple était le lieu créé pour adorer Dieu, mais c'est aussi le lieu de pardon. À Jérusalem, là où Jésus-Christ fut crucifié en dehors de la ville, comme une victime expiatoire pour nos péchés. Là où nous avons reçu notre pardon. En fait, même, Daniel priait dans sa maison, pas devant tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a prié, finalement? Verset 10 nous le dit, hein? Il priait des louanges, il louait son Dieu. Ça, c'est intéressant parce qu'il vient de recevoir comme un gifle ce décret. Oh, mais il rentre chez lui pour louer son Dieu. Le temps s'approche, c'est presque la fin de la déportation, ils peuvent reconstruire leur temple. Ils louent son Dieu. Oh, quel bel exemple, il y a toujours des raisons pour louer le Seigneur, quoi qu'il nous arrive, c'est vrai. Et si vous ne savez quoi dire quand vous priez, commencez avec les louanges. Et c'est là où on l'a trouvé, en priant. Ses fenêtres ouvertes vers le temple, comme d'habitude, mais il était à l'étage supérieur. C'était pas devant tout le monde. Non, eux, ils entrent dans sa maison tumultueusement à l'heure de ses prières et on le trouve priant. Il n'y avait pas de mystère. Daniel, il n'a rien dit en sa défense. Qu'est-ce qu'il allait dire de toute façon? Oh non, je priais pas. Non, bien sûr, il priait. Il en était même fier, j'en suis sûr. Mais là encore, nous voyons une autre image de Jésus et la croix. Lui qui n'a rien dit en sa défense. Et justement, est-ce qu'il est toujours nécessaire de se défendre, de répliquer à toute parole dite contre nous? Pas toujours. Je pense que Daniel, il gardait certainement cette promesse que nous trouvons en Ésaïe. Daniel qui était effectivement un homme de la parole, nous savons qu'il lisait Ésaïe, alors je pense qu'il gardait certainement cette promesse en Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc, qu'est-ce qu'il avait de mieux à dire? Eh bien, regardez justement la faiblesse du roi. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » En apportant une pierre, on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. On aime bien cet exemple de Daniel, mais le roi, par contre, il a beau essayer, mais il fut pris au piège de sa propre loi et de son orgueil. Ça fait penser à ce songe de Nebuchadnezzar, où Babylone avait la tête en or, mais la prochaine royaume, les Pèdes et les Mers avaient la poitrine en argent. Ce n'est pas aussi fort que Nebuchadnezzar avec tout le pouvoir qu'il avait. Eux, ils étaient même assujettis à leur propre loi. Mais pourquoi cette intransigeance? Parce que en Perse, le roi parle pour les dieux et les dieux ne se trompent jamais. Ainsi, la loi, une fois que c'est dite et signée, ça ne change jamais. Finalement, on a plus l'idée que Daniel était plus sensé que le roi. Il était certainement plus calme. Après tellement d'années de ministère, il a vu tellement de choses. Dieu était avec lui pendant le tout. Bah, c'est plutôt normal. De toute façon, il a déjà vu et vécu une vie bien pour le Seigneur. Il a appris à se confier en Dieu et non pas en les hommes. Et je crois que ça, c'est quand même une des leçons les plus difficiles, parce que nous savons que Dieu utilise les hommes, et parfois on a des attentes, on attend des choses des hommes, mais il ne faut pas attendre des choses des hommes, parce que quel homme peut réellement accomplir ces choses-là? Notre Dieu peut utiliser les gens, mais il est celui qui pourvoit toutes choses. Comme il dit dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » C'est l'Éternel qui me donne le secours. C'est l'Éternel qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Enfin, le roi, il scella la fosse au lion. C'est par l'ordonnance au roi qui empêche tous les sympathisants de Daniel de le faire sortir. Mais notez bien que ça créait un témoignage officiel. On ne peut pas s'empêcher de revenir à la croix parce que là encore, ça nous fait penser au tombeau de Christ qui était aussi scellé. C'est une preuve importante que toute critique sérieuse doit prendre en compte. Le corps de Jésus était placé dans le tombeau et c'était scellé officiellement. Les miracles arrivent. Et ces miracles sont toujours pour la gloire de Dieu. C'est dans nos temps modernes qu'on a tellement du mal avec ces choses, dans certains camps. Mais les incroyants, ceux qui dénoncent les miracles, ils espèrent toujours dans des miracles. Comment ça? Parce que eux, ils attendent que la vie s'améliore. Comment le sais-je? Parce qu'on entend justement leurs plaintes lorsque les choses ne vont pas bien. Ils sont les premiers à dire que ce n'est pas normal. Mais attention, si tout est fait par chance, rien n'est certain. Et donc, si on croit réellement que la vie n'est que la chance et que nous ne sommes pas créés, quelle certitude avons-nous que demain, toutes ne deviendront catastrophe et que tous nos espoirs se dissoudront dans une seconde, puisque tout est mis au hasard. Voyez, il s'avère qu'il croit bel et bien dans les miracles de la constance des choses dans lesquelles ils ont mis leur espérance. Au moins, nous qui croyons en Dieu, nous avouons notre croyance. Et nous rendons gloire dans le Dieu des miracles. Parce que les miracles, ça arrive au moment inattendu. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'Écriture, mais on n'a jamais organisé des soirées de miracles. Mais c'est toujours Dieu qui le fait de sa propre main, quand il le voulait. Et c'est toujours vérifiable. Et ça... c'est tout à fait au contraire de ces soi-disant guérisseurs qui proclament et prétendent avoir fait beaucoup de miracles, mais qui sont jamais vérifiables. Et effectivement, quel était le résultat final? Ben, c'était une conversion d'un roi. Parce que la nuit tombe et ce roi, il est tellement agité dans son esprit, il a du mal à dormir. Mais dès l'aube, le matin, il se rend même à cette tombeau, si vous voulez, cette fosse. Et il demande, Daniel, es-tu là? Et Daniel dit, ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, roi, je n'ai rien fait de mauvais. Et le roi est joyeux, il condamne justement ces satrapes qui s'en prenaient à Daniel. Et après cela, le roi Darius, verset 25, écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues, de toute la terre, que la paix vous soit donné avec abondance. J'ordonne que dans l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Ça peut aussi se traduire sous le règne de Darius, même le règne de Cyrus, qui pourrait dire que ça c'est la même personne. Si vous voulez, la nuit angoissée du roi le ramène à la fosse tôt le matin. Il appelle Daniel en désespoir, mais il retrouve la joie en entendant sa réponse. Comme disait David Guzik, selon vous, qui dormait le mieux ce soir-là? Et justement, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cet ange qui a fermé la gueule au lion? Selon Hébreux 1, verset 14, nous apprenons que les anges sont des serviteurs pour ceux qui sont appelés au salut. Et donc, ça convient qu'il y en a un envoyé pour protéger Daniel. Il est même possible il y a des experts, des théologiens qui croient que cet ange est l'ange du Seigneur, parce qu'il y a ce lien si fort avec le Seigneur et Daniel. Daniel prie beaucoup et passe beaucoup de temps avec Dieu. Il reçoit même des révélations que Jésus cite plus tard. On imagine qu'il était assez proche avec Dieu, n'est-ce pas? Le jugement, par contre, ça a fait scandale de notre époque, mais pour l'époque de Daniel, c'était tout à fait normal, banal. Il n'y a aucun commentaire dans le texte. Ce n'est pas Dieu qui l'a ordonné, c'est le roi qui l'a fait. Enfin, le roi, par contre, il reconnaît l'Éternel comme le Dieu vivant. Et c'est ça, la plus importante chose dans ce texte. C'est le salut d'une âme. C'est ce qui affirme les plans de Dieu aussi, pour donner une voix à son serviteur en fonction de sa volonté. Rappelons-nous de ce qu'on a dit dès le début de cette leçon. C'est que Dieu avait un plan merveilleux, une grande histoire de la rédemption. Dieu allait faire reconstruire ce temple en envoyant son peuple. Il allait rétablir son peuple en Judée parce qu'il fallait que son Messie naisse, non pas à Babylone, mais à Bethléem. En conclusion, si nous cherchons la volonté de Dieu, je crois que ce n'est pas impossible que nous puissions voir aussi des portes s'ouvrent qu'on n'avait jamais auparavant imaginées. Qu'est-ce que Jésus a dit, d'après tout, à l'église de Philadelphie en Apocalypse 3:8? Parce que ta force est petite, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Soyez donc qui vous êtes, fidèle au poste de prière, comme Daniel était. Parce que Dieu, il a ses manières d'utiliser et de récompenser ceux qui se confient en lui.